Vous êtes sur RTL. Denis Balbir sur RTL.
On refait le match.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour votre émission On refait le match. Nous allons balayer l'actualité, essayer de nous poser des questions pertinentes avec autour de la table des invités pertinents et de répondre à ces questions pertinentes. La première, le Paris Saint-Germain, Thiago Silva doit prolonger son contrat, mais y a-t-il un malaise? Thiago Silva, c'est quoi le problème? La deuxième question, l'Olympique Lyonnais victorieux de Nîmes 4-0, est-il trop dépendant de Memphis Depay, le néerlandais? Troisième question, les clubs français vont-ils dans le mur? À part le Paris Saint-Germain, ils disparaissent de plus en plus vite de la scène européenne. Lyon qui joue son va-tout en Champions League mardi face à Leipzig. Et puis Marseille, l'OM nouveau est arrivé, mais tiendra-t-il la cadence? Nous sommes ce soir avec Cindy Colmenares, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous.
David Aiello de Yahoo Sport.
Bonsoir mon cher Denis, bonsoir à tous.
Bonsoir David.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Bruno Constant, bonsoir et bienvenue dans Refait le match.
Première, bonsoir Denis, bonsoir.
Un grand plaisir de vous avoir avec nous autour de la table. Et puis Sébastien Tarrago qui a froid apparemment.
Non, je suis bien, je me sens bien dans ce petit pull.
Oui, c'est vrai, c'est bien, ça vous va bien ce petit pull.
Ce petit pull plus votre présence et je me sens parfaitement bien.
Avoir sur RTL.fr, c'est toujours mieux.
Oui, c'est vrai, très très bien ça. On va faire un petit tour rapidement avant la pub par Montpellier-Paris Saint-Germain. Eric Martin, c'est une petite surprise, en tous les cas c'est un événement, le PSG qui est mené.
Le PSG qui est mené par Montpellier, 1-0, les Montpelliérains qui sont très bien rentrés dans cette partie, notamment par Andy Delors avec une lourde frappe. Le but, c'est Paredes qui l'a marqué contre son camp, une tête contrée de Daniel Congré, le défenseur central montpelliérain. Il faut dire que les Montpelliérains sont un petit peu la bête noire du Paris Saint-Germain, les Parisiens qui n'ont plus gagné depuis 2015 ici au stade de la Mosson, et les Parisiens qui manquent cruellement de créativité. À noter que Thomas Tuchel a dû faire deux changements en première période, Kimpembe et Gay qui sont sortis sur blessure, une blessure musculaire au niveau de la cuisse notamment.
Nous serons avec vous tout au long de cette soirée. Eric Martin, nous sommes ensemble jusqu'à 19h30. Nous sommes avec Cindy Colmenares, David Aiello de Yahoo Sport, Bruno Constant et Sébastien Tarrago de l'équipe sur RTL. A tout de suite pour On refait le match.
RTL, on refait le match. Suivez votre...
À l'occasion du Salon Nautique International de Paris, luttons ensemble pour le respect de l'environnement avec Volvo Car France. Et on accueille tout de suite Nathalie Duneau, directrice marketing de Volvo Car France. Bonsoir Nathalie.
Bonsoir.
Nathalie, en parallèle du Nautique de Paris dont vous êtes partenaire officiel, vous organisez ce dimanche 8 décembre la 6e édition de votre Volvo Car Plogging. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le plogging?
Alors le plogging, c'est une activité de nettoyage citoyen qui se décrit comme une combinaison de jogging et de ramassage de déchets.
Et c'est quoi le but de cette course?
Clairement, nous, on pense que chaque geste compte. Et on espère, à travers des actions comme le plogging, éveiller les consciences, participer à notre niveau, à valoriser et accompagner le développement d'une mobilité plus durable.
D'accord. Et les déchets récoltés, ils deviennent quoi?
Alors, les déchets récoltés seront recyclés pour la réalisation d'une œuvre d'art.
D'accord. Et vous comptez mener cette course à d'autres villes?
Oui, clairement. Parce qu'on souhaite promouvoir cette activité et amener de plus en plus de gens à s'inscrire dans cette démarche éco-responsable.
D'accord, merci Nathalie et bon courage à tous les participants de la 6e édition du Volvo Car Plogging qui aura lieu demain à Paris.
Denis Balbir sur RTL.
On refait le match.
Nous sommes ensemble jusqu'à 19h30. Je vous rappelle que c'est le week-end du Téléthon 36-37 pour aider la science à progresser. La thérapie génique notamment qui a fait son apparition remarquée pour continuer à traiter des maladies rares du système immunitaire 36-37 pour le Téléthon. Nous en venons à nos questions pour cette émission On refait le match. La première, mademoiselle, messieurs, le Paris Saint-Germain, Thiago Silva doit-il prolonger son contrat? Apparemment, il y a un malaise. C'est quoi le problème, Bruno Constant?
Le malaise, visiblement, il est du côté du PSG. Puisqu'ils n'ont pas l'air de lui donner beaucoup de nouvelles sur ses demandes répétées et à travers notamment la presse. Après, c'est normal que le PSG se pose des questions.
Mais du côté des partenaires aussi, on ne sent pas vraiment une volonté du vestiaire de dire « allez, faut le garder ».
Oui, c'est ce qui est ressorti. Mais moi, après, le fait de prolonger ou pas Thiago Silva, je peux comprendre que le PSG se pose la question. Il a 35 ans, il aura 36 ans en septembre l'année prochaine. Et qu'à un moment donné, il coûte très cher en salaire. Et je peux comprendre que le PSG, qui a déjà Marquinhos, Kimpembe, Kerrer, veuille passer à autre chose. Sachant que visiblement, de ce qui se passe à Naples, on sait qu'un garçon comme Koulibaly va être sur le marché. Et je pense qu'un garçon comme ça peut faire beaucoup de bien au PSG. Maintenant, est-ce que Thiago Silva est un bon défenseur? Oui, c'est sans doute le meilleur défenseur aujourd'hui de la Ligue 1.
On lui reproche sa fébrilité à l'approche des grands rendez-vous, ça c'est pas nouveau.
Non mais ça foire.
Sébastien Tarrago, l'équipe.
Pas convaincu. Quelle fatigue. Ouais. Ça amuse ça, ce procès qui est fait à Thiago Silva.
C'est un faux procès. Oui. Mauvais procès.
Oui. Absolument. C'est le.
Il a toujours été au top quand c'était les grands rendez-vous.
C'est le meilleur joueur du Paris Saint-Germain, le plus régulier depuis 6 ans.
C'est non mais tout, non, je parle des grands rendez-vous, il a toujours été bon dans les grands rendez-vous.
À Chelsea, il marque un but, il est fantastique. À Manchester City, c'est le moins pire quand le PSG est éliminé. Dans c'est tous bon, les matchs bon. De huitième de finale, de quart de finale qu'a disputé le PSG, c'était soit le meilleur, soit le moins pire. Il en a raté deux. Il a raté deux matchs et on dit qu'il est fébrile. Mais regardons les autres. Moi, on me parle de Koulibaly, j'aime beaucoup. Mais si...
Pas le niveau
si, non mais on verra. Je dis juste que si ce garçon, qui est parfois formidable, à le même niveau que Thiago Silva pour les 6 prochaines années, il faut l'acheter tout de suite. Tout de suite. Parce que je vous dis que Thiago Silva, quand il va partir, et je comprends qu'il puisse partir, attention, hein, mais le Paris Saint-Germain va le regretter. Parce que c'est un monstre. C'est un monstre.
Bon, vous êtes un fan de Thiago Silva.
Je ne suis pas fan. Je dis juste que ce qu'on dit de lui est injuste. Mais en revanche... Voilà, je vais aller dans votre sens. Je comprends qu'on puisse.
Moi, c'est pas mon sens. Moi, j'ai posé une question.
Je comprends qu'on puisse. On vous connaît, Monsieur Balbir. Je comprends qu'on puisse se poser la question de se séparer de Thiago Silva.
C'est l'âge.
Déjà, non. C'est-à-dire que déjà, à ce niveau de salaire, c'est impensable. C'est-à-dire que si Thiago Silva veut prolonger, il va devoir baisser son salaire. C'est tout à fait normal. S'il ne le veut pas, je pense que le Paris Saint-Germain ne doit pas le reprendre. Et après. À tort ou à raison, il est le symbole quelque part de la loose, de la culture de la loose du PSG. Et c'est terrible, mais c'est comme ça. Et donc je pourrais comprendre qu'on veuille passer à autre chose. Mais en revanche, quel respect pour les performances de cet homme.
David Ali, Yahoo Sport.
Sur les performances de Thiago Silva, effectivement, c'est sans doute l'un des joueurs les plus réguliers de l'effectif. Après, Sébastien, peut-être qu'il y a quand même la performance à Chelsea, justement, là où il fait main aussi, où il n'est pas forcément extraordinaire. Le
meilleur
Barça,
joueur du PSG aux notes de tous les médias.
Le Barça, il n'est pas non plus. Je parle de la remontada, évidemment.
Ah bah, il y en a eu peu qui ont été bons.
Non, je suis d'accord, mais je veux dire, on peut pas non plus.
Il a un rôle
même
de,
si globalement,
il
est très régulier.
Il a raté deux matchs. Et sinon, c'était le meilleur.
En tout cas, moi, je voulais venir surtout sur le leadership, parce que c'est peut-être là-dessus aussi où il est interrogé, plus que sur sa qualité technique. Parce que sur la qualité technique, tu dis que c'est Bruno qui dit que c'est le meilleur défenseur de la Ligue 1. Il reste quand même aujourd'hui globalement l'un des meilleurs défenseurs au monde sur la qualité technique. Après, sur le leadership, par contre, c'est autre chose. Et là-dessus, il y a une vraie question. Il y a d'ailleurs une question qui se reposera si c'est Koulibaly qui le remplace, parce qu'aujourd'hui, remplacer Thiago Silva par Koulibaly, je suis pas sûr qu'en termes de leadership,
oui, mais
on gagne.
Et je pense que c'est quand même pour ça non plus Koulibaly. On fait pas va chercher
non,
Koulibaly.
Mais, oui, mais justement,
capitaine au PSG.
Non, mais je pense qu'aujourd'hui la question se pose justement encore une fois et toujours des leaders au Paris Saint-Germain.
Voilà, c'est ça.
Et je pense que Thiago Silva est peut-être pas l'homme de la situation. Et si il doit partir, il faudra se poser la question de qui peut être cet homme-là.
C'est pas Kimpembe. Qui va être charismatique au Paris Saint-Germain, je pense pas. Cindy Colmenares.
Alors, d'abord, par rapport à Koulibaly, vous avez dit à juste titre qu'il y a un intérêt. D'ailleurs,
j'ai juste
cet intérêt,
dit qu'il allait être sur le marché. Hein. J'ai pas dit que le PSG devait être.
Tout le monde tombe dessus, David Koulibaly.
Cindy. Cet intérêt, il n'est pas nouveau. C'est ce que j'allais dire. Les joueurs sénégalais, c'est un très bon défenseur. Il y a également les Real Madrid qui peut éventuellement être déçus d'après ce qu'on lit récemment dans les journaux. Mais je reviens plutôt sur les cas Thiago Silva. Moi, je pense que c'est un cadre, c'est un taulier du PSG. Il a su être présent et techniquement et sportivement, on n'a rien à lui reprocher à Thiago Silva. En revanche, c'est vrai que beaucoup ont été marqués déjà en 2014 par cette histoire de la Coupe du Monde avec ses joueurs en larmes. Moi, j'ai aucun inconvénient avec les garçons qui pleurent du moment où ils se montrent pressants et solides. Qu'est-ce qui se passe également avec Thiago Silva? On a pu remarquer que parfois on les demande de jouer un peu plus haut. Lui, il se met un peu bas et ça ne correspond pas toujours à la stratégie de Tuchel. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, les PSG
au Nou Camp, il y avait l'histoire. Est-ce que c'est les consignes de l'entraîneur? Est-ce que c'est lui qui descend? Est-ce que c'est pas aussi le Barça qui à un moment met une pression phénoménale?
En tout cas, aujourd'hui,
le rôle
Navas
du joueur dans ces cas-là, je veux dire, c'est Thiago Silva qui serait responsable que tout le bloc parisien soit descendu si bas?
Non, j'ai dit pas ça. Mais aujourd'hui, les besoins, c'est que Navas.
Non, mais c'est ce qu'on entend tout le temps.
Au niveau de la défense et au niveau aussi d'un gardien qui enfin arrive au PSG et qui rassure au niveau du bas. Donc je comprends que Tuchel ait envie que la défense joue un petit petit peu plus haut. Et d'un autre côté, j'ai envie aussi de dire que est-ce qu'on entend, est-ce qu'on a lu dans les Parisiens tout récemment par rapport à la situation de Thiago Silva, c'est que les joueurs au sein du vestiaire, on l'apprécie pas parfois parce qu'ils se montrent assez nerveux, assez stressés face quand il y a des grandes rencontres qui arrivent. Donc dans ces cas-là, moi, ce que je pense, c'est que les PSG ont pris en compte son âge, mais aussi que c'est un joueur important, doit essayer de les rassurer, faire en sorte, parce que ce sont des détails en fait, on aime les joueurs oui, par ses défauts mais également par ses atouts, on sait tout
fait,
apprécier
le problème,
dans la globalité.
Le problème, Bruno Constant, de ce joueur de Thiago Silva, c'est qu'on a l'impression que le PSG cherche un aboyeur en fait, que le PSG n'a pas. C'est un cliché, parce que ça veut pas dire que parce qu'il a, c'est un aboyeur que c'est un bon joueur. Bruno Constant.
Non, le problème c'est que si effectivement il est moins respecté ou de moins en moins respecté au sein du vestiaire, ça c'est un peu un problème. Après, j'espère que le PSG ou le caractère du PSG ne repose pas sur un seul homme dans le vestiaire. Tous les grands clubs ont 4-5 leaders de vestiaire.
Mais là, c'est il pareil. A Brassard, lui.
Oui, mais c'est pas parce que vous avez le Brassard que les autres n'ont pas le droit de parler.
Mais oui, il est nécessaire actuellement.
Il faut plusieurs leaders dans un vestiaire. Et visiblement, au PSG, il n'y en a pas assez. C'est
oui,
ça,
et surtout qu'aujourd'hui, quand nous avons les matchs face à FC Nantes, on a quand même remarqué qu'offensivement, le PSG, il n'est pas vraiment au niveau actuellement. Donc il faut aussi une défense qui sache rassurer, avec des cadres, avec des joueurs qui savent mettre quand même un peu du caractère. Donc moi, j'ai envie de dire que Thiago Silva a cela, mais il faut aussi, face au grand match, qu'il puisse, dans une position plus rassurante et aussi rassurée pour qu'il puisse s'intégrer. Mais pour moi, il a complètement sa place.
Il
ne
faudrait pas laisser penser que Thiago Silva n'a pas de caractère. Il n'aurait pas fait cette carrière-là.
Bah évidemment.
C'est pas ce qu'on dit.
Il n'a pas de caractère.
C'est pas ce qu'on dit. Au contraire, c'est quelqu'un qui vient d'un milieu bas. D'ailleurs, il vient des bidonvilles où il faut se battre pour réussir, pour arriver à ces niveaux. Moi, je pense qu'il a absolument tout ce qu'il faut. Je dis juste, si vraiment, parce qu'il faut comprendre aussi que ces critiques, elles ne viennent pas de nulle part. Donc, si on veut se mettre aussi dans l'essence, essayer de comprendre, même si je ne les partage pas, ces critiques, on est, je pense, sur ces plateaux plus ou moins tous d'accord, il faut quand même comprendre d'où ça vient. Et ça vient de ces petits détails, ces remarques qui font que parfois il se prouve qu'il n'est pas rassurant.
Mais pourquoi s'il y a vraiment ce problème-là, pourquoi le Brésil lui fait toujours confiance? Pourquoi la meilleure charnière au Brésil, ça reste Marquinhos et Thiago Silva?
On peut dire peut-être la même chose par rapport à Thiago.
Il est sorti parfois, par moment. Ah,
il joue maintenant.
Oui,
il joue.
Là, mais oui. Il a eu des phases où il est sorti.
Non, mais il a eu une phase.
Sébastien Tarago, l'équipe.
Mais une fois qu'il a été rappelé, il bouge plus, c'est le meilleur. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le problème, c'est que moi, encore une fois, je peux comprendre qu'on passe à autre chose. Mais il va falloir être costaud pour trouver la suite. Parce qu'on me parle de Kerrer, c'est peut-être bien pour. Si chez les valides, il peut passer. Parce qu'à un moment, il est tout le temps blessé.
Non, mais la question est là, c'est qui pour remplacer Thiago Silva?
Et si on compare Kerrer à Thiago Silva, c'est comme comparer le championnat de France avec le championnat d'Angleterre. Il y a 5 divisions d'écart.
Oui, on peut pas, c'est vrai. Alors on va revenir à Paris Saint-Germain, à Thiago Silva dans quelques instants. On va laisser passer une page de publicité. Je vous dis, je vous rappelle que le Paris Saint-Germain est mené à Montpellier sur le score de 1-0, un but contre son camp de Paredes. Nous sommes avec Cindy Colmenares, David Aiello de Yahoo Sport, Bruno Constant et Sébastien Tarago de l'équipe. À tout de suite sur RTL.
RTL. On refait le match.
Grignoter.
On refait le match.
Denis Balbir sur RTL.
Avec Cindy Colmenares, David Aiello de Yahoo Sport, Bruno Constant et Sébastien Tarago de l'équipe. Un petit tour de table rapide, après on finira avec ce débat sur Thiago Silva. Doit-il prolonger son contrat, David Aiello, Yahoo Sport?
Comme l'a dit Sébastien, ça dépend du prix. S'il accepte, effectivement.
Commencez pas avec vos histoires
de prix.
C'est
important.
À ce stade-là, c'est plus la durée que le prix.
Allez voir votre patron, c'est venir et vous lui dites que vous êtes finalement 10 fois plus cher. Peut-être qu'il va réfléchir à vous trouver
un successeur.
5 fois, ça suffit. David Aiello, Yahoo Sport. Alors, il
Oui, non, ça compte. Effectivement, moi, je pense qu'il faut effectivement le prolonger s'il accepte de baisser son salaire de façon assez importante.
Cindy Colmenares.
Moi, je pense qu'il faut prolonger et surtout, il faut ne pas s'abandonner les atouts qu'il y a les PSG, parce que quelle image aussi on renvoie, parce que les PSG est aussi un recruteur. On a déjà vu quelques difficultés à garder ces joueurs, à les garder surtout dans des bonnes conditions. Donc je pense qu'il m'est-il très de se poser les vraies questions.
Bruno Constant.
Moi je le prolongerais, oui. On sait toujours ce qu'on perd, on ne sait pas vraiment ce qu'on récupère après. Donc voilà.
Parce que c'est ce que j'allais dire, Sébastien Tarago. Qui peut succéder à Thiago Silva? Parce que des El Monstro, il n'y en a pas 40.
Sébastien Tarago. Il n'y en a pas 40. Cela étant dit, même si vous suggérez que je suis amoureux de ce joueur, de manière un peu excessive. Cela étant dit, je pense qu'il faut attendre le printemps et voir ce qu'il se passe en Ligue des Champions.
Je pense que c'est un petit peu d'ailleurs la position des dirigeants parisiens qui sont certainement pas fermés complètement à une prolongation et qui attendent de voir effectivement ce qui, et notamment ce qu'elles seront ses performances.
On va aller voir Éric Martin, Montpellier-Paris Saint-Germain. Comment se déroule cette rencontre? Est-ce que le Paris Saint-Germain se révolte, Éric?
C'est très très timide de la part des hommes de Thomas Tuchel. Ils essayent, Neymar qui perd énormément de ballons. Le milieu de terrain est très faible, notamment depuis la sortie d'Idrissa Gueye en première période sur blessure. Le jeune Kouassi essaye de faire ce qu'il peut aux côtés notamment de Paredes ou encore de Sarabia, mais c'est très compliqué. Et surtout le bloc montpellierain qui est toujours très très bien en place. Beaucoup de fautes, beaucoup de déchets de la part des Parisiens qui commencent à s'énerver là, notamment Juan Bernat qui vient de se prendre un carton jaune sur une faute qu'il aurait pu éviter tout simplement sur un joueur montpelliérain. C'est très inquiétant de voir Paris jouer comme ça ce soir. Neymar qui a été préféré notamment à Angel Di Maria, mais pour le moment il ne fait pas le match qu'on attend de lui, le numéro 10 parisien. Attention là les montpelliérains, et on réclame un pénalty notamment d'Andy Delors qui était bien allé dans la surface de réparation. Il s'est fait toucher apparemment par un défenseur parisien, mais pas de pénalty sifflé par Anthony Gauthier. Donc toujours 1-0 pour le MHSC. Le but de Paredes contre son camp en première période, et on joue depuis 60 minutes.
On sera avec vous bien évidemment jusqu'au terme de cette rencontre, Éric Martin, pour Montpellier-Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui est mené 1-0. Nous allons passer à l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais qui a gagné hier à Nîmes 4-0. Avec un Memphis Depay qui a été l'homme qui porte un petit peu l'Olympique Lyonnais actuellement. David Ayello, Yahoo Sport, le Lyon trop dépendant de Memphis?
Trop dépendant, en tout cas visiblement dépendant, j'ai envie de dire, déjà d'un point de vue technique, parce qu'il est clairement au-dessus du lot dans cette équipe et dans cet effectif. Moi, surtout, ce qui me marque, c'est l'importance qu'il a pris en termes, justement, on en parlait avec Thiago Silva, en termes de leadership. C'est-à-dire qu'on voit que dans un club comme l'OL, évidemment, des joueurs de cette trempe, de cette, avec une telle personnalité.
S'ils ont envie. Sinon, il y a une époque où Memphis Depay n'avait pas envie.
C'est vrai. Je pense que le fait de lui avoir donné le brassard était également quelque chose d'assez intéressant pour lui. Il l'a responsabilisé, l'a mis un petit peu sous pression. Mais avoir un joueur avec autant de personnalité, peut-être même aussi avec autant d'exigence, avec autant d'arrogance parfois, c'est nécessaire pour un club de la dimension de l'OL.
Cindy Colmenares, Memphis.
Moi, je pense que l'OL est effectivement un peu dépendant des Memphis Depay.
Trop.
Et peut-être un peu trop parfois. De toute façon, moi, je pense que l'activité actuelle de l'OL, on a beaucoup parlé des entraîneurs, donc ils ont été changés de façon successive. On remarque que ça revient, et je l'ai dit depuis un certain temps, je le pense toujours, tout repose sur les joueurs. Même si leur dernier match était moins mauvais que les autres, il faut aussi remettre dans les contextes qu'ils sont joués à 11 contre 9.
Oui.
Moi, là où ça m'embête un peu plus, c'est que j'attendais beaucoup plus d'un joueur comme Aouar. Parce qu'on parle beaucoup de Depay. Enfin, certes, il est toujours présent dans les grands matchs et souvent dans les petits matchs, c'est pas trop ça. Donc, il peut être assez irrégulier. Et quand il est bon, ben, du coup, c'est un joueur qui apporte énormément à l'équipe. Mais qu'en est-il d'un joueur comme Aouar qui, la dernière fois, a fait un bon match, mais régulièrement, il n'est pas au niveau qu'on l'attend.
Justement, Bruno Constant, est-ce que l'éclosion d'un Memphis Depay à Lyon, si on peut parler d'éclosion, empêche un Aouar justement d'être plus explosif, d'être plus, de se montrer plus à son avantage qu'actuellement? C'est vrai qu'il déçoit.
Le problème une individu qui affiche des stats comme celle de Memphis Depay, soit c'est parce qu'il bonifie un collectif qui est performant, soit il sauve un collectif qui est défaillant. Et à Lyon, on voit bien que le collectif est défaillant. Donc je trouve plutôt inquiétant d'être dépendant d'une telle individualité. Et le problème, c'est qu'on voit ça depuis quelques saisons déjà. C'est pas lié à Memphis Depay. C'est-à-dire que Lyon marche sur des individualités. C'était Fekir.
Oui, mais avant, il y en avait plusieurs.
Oui, il y en avait plusieurs.
Justement, il y avait Lacazette,
c'était
Fekir,
un peu
Tolisso.
Partagé. Oui, mais l'année dernière, il y avait qui? Il y avait Fekir. Il y avait qui d'autre?
Oui,
qui était régulier,
ouais. Ouais,
ou décisif à ce point-là, comme les Memphis Depay cette saison? Et là, le problème, c'est que Lyon n'avance pas. Il n'y a pas de progrès collectif. Donc ça va être un souci, effectivement, s'il se blesse, s'il est expulsé, il manque, il n'est pas présent, mais...
Je sais que les sports, en fait, le football, c'est un sport collectif. Et moi, j'aime bien les voir de cette façon. Mais c'est vrai que quand on parle de l'OL, on a quand même tendance à regarder un peu les individualités. Parce que comme on a un joueur comme Dembélé, qui rentre sur les terrains, qui perd énormément de ballons, on s'est dit, bon, est-ce qu'aussi, au bout d'un moment, on va arrêter de se dire que tout repose sur les projets, sur la tactique? Et on s'est dit, est-ce que les joueurs, ils sont en train de mettre l'imbi dont ils ont besoin, surtout parce que là, il y a une épreuve qui arrive en Champions League.
Oui, contre les Psyches.
Ils ne vont pas être ménagés.
Sébastien Tarago, l'équipe, l'OL, trop dépendant de Memphis Depay?
Il y a eu une bonne décision lors des 6 derniers mois du côté de l'Olympique Lyonnais, c'est d'avoir mis Memphis Depay capitaine. On va la reconnaître au moins, c'est Rudy Garcia qui a décidé cela. Ça fait une bonne décision en 6 mois, c'est peu. Sachant que, à mon avis, prendre Rudy Garcia était une erreur. Donc je suis un peu inquiet pour l'Olympique Lyonnais dans sa globalité. Peut-être qu'ils arriveront, les Lyonnais, à se hisser sur le podium du championnat de France, vu l'infinie faiblesse. Là, on n'a jamais vu ça. Jamais.
Ouais, on en parlera tout à l'heure.
De ce championnat de France. Mais je pense que ce club, qui est le club le mieux géré de France depuis 30 ans, est actuellement en grand danger à cause de la gestion de Jean-Michel Aulas, de Juninho.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. On va faire une petite déviation, hein, comme c'est la mode de prendre des raccourcis qui n'en sont pas. Sébastien Tarago, l'équipe, est-ce que le fait que Jean-Michel Aulas, ça coïncide avec une sorte de lâchage du président, sans lâcher, mais on l'a vu quand même beaucoup plus présent par le passé. Et là, Lyon va mal depuis que Jean-Michel Aulas a lâché un peu les rênes.
Il n'a pas lâché, Sébastien Tarago, il a été obligé de revenir très vite. Il s'est trompé, Jean-Michel Aulas. Il voulait garder Genesio. Il a été soumis à la vindicte populaire et au tribunal populaire. Il ne pouvait plus garder.
Son grand rêve, c'était Lucien Favre, quand même.
Ouais, mais en tout cas, le vrai souci, c'est que il a pris Juninho. Il savait que ça plairait aux supporters, mais il n'a pas considéré le talent de Juninho. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous mettez des coups francs de 45 mètres que vous savez diriger un club. Ouais. Et Juninho, il n'est pas fait pour diriger un club. Et peut-être progressera-t-il, peut-être prendra-t-il la mesure de son poste, mais aujourd'hui il en est très très loin et c'est tout un édifice qui vacille. À cela on peut rajouter l'influence étrange de Gérard Houllier. Je ne suis pas sûr que ce soit aujourd'hui vers lui, malgré sa formidable carrière, qu'il faille se tourner pour choisir des directions sportives. Je pense que je suis très inquiet pour ce club qui malheureusement part à volo.
Alors rapidement en tour de table, David Ayello, Yahoo Sports, sans Memphis Depay, Lyon n'est plus Lyon.
Bah actuellement oui, enfin, comme je le disais en préambule, il est.
C'est une équipe moyenne.
Moyenne, je sais pas, mais il les tire vers le haut. En même temps, c'est normal que dans un club il y ait toujours des leaders techniques et des leaders de morale, mais.
C'est Nicole Ménarès.
Excellente question, parce que c'est la question qui va se poser très rapidement, parce que s'ils n'arrivent pas à garder ces joueurs, Lyon, j'ai l'impression qu'ils dépendent beaucoup sur lui. Qu'est-ce qui va se passer?
Déjà, il faudra aller plus loin en Ligue des Champions, ce qui n'est pas gagné. Bruno Constant, oui. Memphis Depay.
Comme ça, on ne les gardera pas.
Hein. Moi, Lyon me fait penser à Arsenal, en fait. Quand Arsenal, il y avait ce duo de choc Arsène Wenger, David Dean, ça marchait formidablement bien. Ils étaient très forts dans le recrutement, ils avaient toujours des bonnes pioches, ils avaient toujours un temps d'avance. Et c'était la force de Lyon, moi, je trouve, des années 2000, d'aller recruter les meilleurs joueurs du championnat. Et depuis qu'ils perdent sans perte de vitesse, depuis qu'Olas lâche un peu de terrain, le recrutement n'est pas bon. Le club est moins bien géré. Je ne sais pas s'il est mal géré, mais il est moins bien géré. Et il n'a pas encadré suffisamment, je trouve, Juninho. Que Juninho tâtonne un peu au début sur sa nouvelle fonction, c'est normal, ça ne me surprend pas. Le problème, c'est qu'il n'est pas encadré, il n'est pas aidé par
Olas. Mais vous l'en voulez avec l'âge qu'il a aussi, Olas, d'essayer de aussi déléguer les choses, parce qu'il a toujours été un excellent président. Franchement,
c'est le fait qu'il y ait un petit peu lâché. On se retrouvera après les infos, s'il vous plaît. Le Paris Saint-Germain qui est mené 1-0 par Montpellier. On se retrouve après les informations avec Cindy Colmenares, David Ayello, Yahoo Sports, Bruno Constant et Sébastien Tarago de l'équipe. À tout de suite sur RTL.
Denis Balbir sur RTL, on refait le match.
La paix.
Sourire. RTL.
On a tellement de choses à se dire.
RTL, 19h. L'information. Bonsoir Alexandre de Saint-Aignan.
Bonsoir Denis, bonsoir à tous. Un militaire français de l'opération Barkhane, gravement blessé au Mali aujourd'hui. Son véhicule a percuté une mine artisanale. L'état-major des armées annonce que le soldat va être évacué vers la France dans les prochaines heures. 4500 militaires sont actuellement mobilisés au Sahel, 6 ans après le début de l'intervention française sur place. En France, la grève dans les transports publics, ça ne va pas s'arranger. La SNCF assure 10 à 15% du trafic habituel ce week-end. L'impact est très important aussi en région parisienne. À la RATP, demain, seul les lignes automatisées 1 et 14, la ligne 1 et la ligne 14 seront fonctionnelles. Pas de RER A, un RER B sur 3. Conséquence, aujourd'hui les Franciliens ont pris leur voiture pour se déplacer, provoquant des bouchons à un niveau exceptionnel. Pas de perturbation en revanche dans les aéroports. Le début de la semaine prochaine s'annonce également très perturbé, avec à la RATP 10 lignes de métro qui vont rester fermées. La SNCF appelle les Franciliens à éviter les trains de banlieue au 5e jour de la grève des transports. L'entreprise ferroviaire craint que l'affluence dans les gares deviennent dangereuses lundi. Le détail des prévisions de trafic sera communiqué demain après-midi. Du côté des syndicats, la démonstration de force continue contre la réforme des retraites. Les trois principaux syndicats de cheminots appellent à amplifier le mouvement à partir de lundi. Des manifestations avaient lieu cet après-midi dans plusieurs grandes villes de France contre la précarité, contre le chômage, à Toulouse, à Montpellier, à Marseille, à Paris, à Nantes également, où il y a eu des violences et des dégradations dans le centre-ville. Des Black Blocs ont infiltré le cortège de la CGT avant de s'en prendre aux policiers. Ils ont également tenté d'attaquer la préfecture de Nantes. Trois personnes ont été interpellées. Dans le village de la Grêle, dans la Loire, il est désormais interdit de mourir le samedi ou le dimanche. Interdit de décéder le week-end, mais aussi les jours fériés par décision de la maire. Un arrêté municipal absurde pour dénoncer la pénurie de médecins dans la région. Dimanche dernier, l'élu avait mis 2h30 à trouver un médecin pour constater un décès à la maison de retraite. La maire dénonce un manque de respect pour le défunt et pour les familles. Le rugby, la Champions Cup avec le Racing 92 qui joue sur la pelouse des Ospreys. Et pour l'instant, ça fait 33 minutes de jeu et le Racing 92 est devant 14-7. Tout à l'heure, La Rochelle s'est inclinée face à Glasgow, battu 27-24. Alors que Lyon a remporté sa première victoire en Champions Cup en battant le Benetton Trévise 28-0. Le compteur vient de franchir la barre des 30 millions d'euros. C'est le Téléthon ce week-end, marathon télévisuel de la solidarité pour récolter des dons et financer la recherche sur les maladies génétiques. Il reste encore quelques heures. Faites un don en appelant le 36-37 sur votre téléphone ou en allant sur internet don.téléthon.fr. La météo pour demain, un temps perturbé avec de la pluie des Pays de la Loire et du Poitou-Charente jusqu'aux Flandres. À l'arrière de la perturbation, un ciel de traîne, nuageux avec des averses. Seuls les bords de la Méditerranée vont garder un ciel bien dégagé jusqu'en milieu d'après-midi. Pas mal de vent demain près de la Manche avec des rafales qui vont se renforcer dans la soirée. Les températures, il fera 10 degrés à Lyon et à Strasbourg, 12 à Paris et à La Rochelle, 13 à Toulouse, 14 à Biarritz, 17 degrés à Bastia. 19h03 sur RTL, c'est la suite d'On fait les matchs présenté par Denis Balbir.
Merci Alexandre de Saint-Aignan pour ce point sur l'actualité. On se retrouve évidemment à 20h et nous allons parler des clubs français. Vont-ils dans le mur? À part le Paris Saint-Germain, ils disparaissent de plus en plus tôt de la scène européenne. Mardi joue Lyon qui joue son va-tout face à Leipzig, donc en Ligue des Champions. Et puis nous parlerons de Marseille. Le Marseille nouveau est arrivé, mais tiendra-t-il la cadence? Nous sommes avec Cindy Colmenares, David Aiello de Yahoo Sport, Bruno Constant et Sébastien Tarago de L'Équipe. Nous vous rappelons également que Montpellier mène devant le Paris Saint-Germain 1-0. Et on retrouvera Eric Martin dans quelques secondes. À tout de suite sur RTL.
RTL, on refait le match.
RTL, on refait le match
avec Denis Balbir,
Cindy Colmenares, David Aiello de Yahoo Sport, Bruno Constant, Sébastien Tarago de L'Équipe et Eric Martin qui assiste à Montpellier Paris Saint-Germain, mais le Paris Saint-Germain qui est mené à 0.
Le but à l'instant du Paris Saint-Germain, Neymar sur coup franc, magnifique ce but de Neymar, le Brésilien, le coup franc qui a trompé Geronimo Rulli sur son côté gauche dans la lucarne directement. Ça fait suite à une grosse faute montpelliéraine et une exclusion du défenseur central Pedro Mendes, deuxième carton jaune pour lui, donc Montpellier qui va finir cette rencontre à 10. Ça fait du bien au Paris Saint-Germain qui avait du mal à produire du jeu depuis le début de cette rencontre. Donc un but partout entre le MHSC et le Paris Saint-Germain, donc Neymar qui vient d'égaliser pour les Parisiens.
Eric Martin, une petite précision parce qu'elle a son importance, encore des blessés au Paris Saint-Germain pendant ce match.
Encore des blessés musculaires, hein. Gueye, oui. Et Kimpembe qui sont sortis en première période dans les 25 premières minutes de jeu. D'abord ça a été Kimpembe sur un dégagement et après Idrissa Gueye en courant tout simplement, qui s'est tenu la cuisse gauche pour les deux joueurs.
Rapidement, une petite réaction sur l'égalisation de Neymar, Sébastien Tarago, L'Équipe.
Un coup franc fantastique, on connaît tous la qualité de Neymar, c'est pas nouveau. Cela étant dit, il n'a pas retrouvé sa dimension athlétique et j'espère pour le Paris Saint-Germain et pour lui-même qu'il va aller mieux, plus vite dans les semaines qui viennent, parce que Paris en aura besoin.
Bruno Constant.
Non, mais je ne sais pas si Thiago Silva est le meilleur défenseur de Ligue 1. En tout cas, Neymar, en forme, ça reste le meilleur joueur de Ligue 1.
David Aiello, il y a ce soir.
Oui, après, bon, voilà, Paris vient d'égaliser, mais sur la prestation globale, c'est quand même une nouvelle prestation assez terne.
Ouais.
Quelque part inquiétante.
Cindy, comme
oui, Neymar, ok, mais moi je retiens aussi que face à FC Nantes, Neymar avait l'opportunité de passer les ballons à Di Maria, il l'a pas fait, il rate une opportunité.
Donc Eric
il faut
Martin,
qu'il arrive à
jouer. Ouais, Montpellier Paris Saint-Germain.
Deuxième but du Paris Saint-Germain. Ça y est, ce match tourne. C'est Kylian Mbappé qui a été bien servi dans la surface de réparation. Il s'est défait d'un défenseur montpelliérain. Il s'est mis sur son pied droit. Il a trompé très tranquillement Geronimo Rulli. Donc 2-1 pour les joueurs du Paris Saint-Germain. On joue depuis 76 minutes ici au stade de la Mosson. façon. Enfin, pour les Parisiens qui avaient du mal, qui ont mis 70 minutes à se réveiller dans cette rencontre.
Alors, on va s'attaquer.
Ils sont en supériorité numérique.
Oui.
Mais c'est là qu'ils ont mis les deux buts.
Oui, c'est vrai. Enfin, non, mais, coup franc.
C'est ça. Il y a une image qui était intéressante. Match derrière, inquiétant. C'est qu'on a vu la réaction des.
David
Ayer,
Lié au Sport.
Pour le coup, on a parfois la tendance à dire qu'ils prennent certains matchs par-dessus la jambe. Là, en tout cas, visiblement, ils n'avaient pas envie de le perdre, celui-là.
Non, mais surtout quand il n'y a pas Verratti, c'est autre chose à retenir. Quand il n'y a pas Verratti dans les jeux, on voit vraiment la différence. Au niveau du milieu, ils avaient du mal. Là, évidemment, comme tu l'as remarqué, il y a l'infériorité numérique de l'équipe adverse, ce qui fait qu'ils ont moins de mal à.
On restera avec Eric Martin, bien sûr, tout au long de cette soirée jusqu'à la fin du match, parce qu'on va laisser Eric Martin passer sa soirée tranquille quand même. On ne va pas être avec lui. Les clubs français, la question, vont-ils dans le mur à part le Paris Saint-Germain, ils disparaissent de plus en plus tôt de la scène européenne. Lille, Rennes, Saint-Etienne en Europa League. Lyon qui joue sa tête mardi en Ligue des Champions face à Leipzig. Alors, est-ce que c'est inquiétant, David Ayello, Yahoo Sport?
Ben, quand vous n'êtes pas capable d'aligner une seule victoire sur 10 matchs de Ligue Europa, alors que dans votre poule, il y a Alexandria, la Gantoise, vous avez Cluj également, et qu'il n'y a pas une seule victoire en 10 matchs, oui, je pense que si on n'était pas inquiet là, mais c'est peut-être ça d'ailleurs le vrai souci pour moi, c'est mais que j'ai l'impression que la gouvernance française.
Le problème, la raison le...
Moi, je pense vraiment que c'est un problème d'état d'esprit. Enfin, je veux dire, sur le niveau, a priori, technique des joueurs de Ligue 1, même tactique ou physique, quand on rencontre les équipes que je viens de nommer, je pense pas qu'il y ait de soucis. En tout cas, on peut pas se retrouver troisième ou quatrième de sa poule de Ligue Europa. Donc, pour moi,
Deux raisons majeures qui ressortent d'une enquête d'Auxerre RTL Groupama. Selon les Français, les clubs ne cherchent pas à construire une équipe sur le long terme. Donc, c'est la raison majeure, 41%, 40%. Et on remet aussi à 40% le niveau insuffisant des joueurs. Bruno Constant.
Le niveau des joueurs, c'est évident que parfois, quand on regarde certains matchs, techniquement, c'est assez affligeant. Mais à un moment donné, si on ne les fait pas jouer non plus, ils ne peuvent pas progresser techniquement. Et le problème majeur, et ça me rappelle un peu l'Angleterre, parfois, l'Angleterre, il y a quelques années, était un peu dans l'impasse, et que le club ne progressait pas, il y avait une espèce de stagnation, voire régression. Et le gros problème majeur, c'était les entraîneurs, en fait, d'avoir apporté des idées nouvelles dans le football. Et on le voit depuis quelques saisons, alors l'arrivée massive de Guardiola, de Klopp, qui ont un peu révolutionné le jeu anglais, ou boosté un peu le jeu anglais, évidemment, ont été suivis. Mais c'est surtout les entraîneurs qui sont plus bas, comme des entraîneurs comme Graham Potter, qui est aujourd'hui à Brighton, Chris Wilder, qui est à Sheffield United, ce sont des petits clubs. L'arrivée de Bielsa aussi en Championship à Leeds, qui a bouleversé les mentalités. Et aujourd'hui, on voit des petits clubs anglais qui jouent beaucoup plus au ballon, qui relancent de derrière, qui essaient d'avoir une qualité de passe, de circulation, de 15-20 passes avant d'aller se presser vers le but. Et ça a changé quelque chose en Angleterre. Et je trouve qu'en France, on est encore un peu fermé dans l'état d'esprit. On ne fait pas assez jouer, on ne prend pas assez de risques.
Mais pour prolonger ta pensée, l'équipe. Vous rendez-vous compte, malgré tout le respect que j'ai pour Villas-Boas, André Villas-Boas, qui en plus, je trouve, travaille bien. Vous rendez-vous compte qu'il va à Angers. Il joue à l'Olympique de Marseille. Il dirige l'Olympique de Marseille. Qu'est-ce qu'il dit à ses joueurs? Les amis, ce soir, on bétonne. Ils ont l'habitude d'être en difficulté quand ils ont le ballon. Tous derrière, et on va les tordre. L'Olympique de Marseille. Mais c'est révélateur.
L'Olympique de Marseille en souffrance, qui est en reconstruction.
Oui, mais attendez, l'Olympique de Marseille contre Angers. Vous voulez qu'on parle du budget? Vous voulez qu'on parle des joueurs? Qui à Angers joue à Marseille normalement? Personne. Faut être sérieux. Mais tout ça, c'est révélateur de quelque chose. Ça veut dire que tout le monde est fragile. Mais vous regardez les matchs? Mais on est payé quelque part pour regarder les matchs. Moi, je ne comprends pas. Je suis désolé. Je ne comprends pas les gens qui regardent les matchs actuellement de Ligue 1 s'ils ne sont pas payés pour cela. Je ne peux plus le comprendre. C'est soporifique. Ça n'a jamais.
Il y a des petites séquences.
Il y a eu quoi? Il y a eu une mi-temps PSG Marseille.
Il y a
Marseille-Lyon. Si vous regardez les matchs meilleures équipes. Ah non, mais si vous voulez, faites-vous plaisir, regardez Amiens. Vous allez voir ce que c'est que le football de 8ème division.
Non, mais il y a des bonnes séquences par moment, même dans toutes les équipes.
Si vous êtes dans votre rôle en disant cela, il n'y a pas de souci.
C'est normal.
Vous êtes là pour équilibrer. Mais
pas forcément.
C'est malheureusement, je n'ai jamais vu cela. Moi, c'est terrible de faiblesse.
Ouais, mais alors, ça, c'est quand même que.
Attendez, David Ayer,
ce n'est pas là, on est quand même.
Non, c'est pire.
But à Montpellier, Paris Saint-Germain, PSG qui fait le break.
Ouais, le PSG qui fait le break. 3 buts à 1 pour le Paris Saint-Germain. La passe lumineuse de Neymar pour Mbappé sur le côté gauche qui s'est mis sur son pied droit, extérieur du pied. Centre magnifique pour Icardi. Icardi qui a repris de voler, qui n'a laissé aucune chance au gardien Payadin, Geronimo Rulli. Icardi qui marque son 7e but de la saison. Ça fait donc 3 buts à 1 pour le Paris Saint-Germain. On joue depuis 81 minutes à la Mosson.
Merci Eric Martin.
C'est Mbappé, je crois, qui fait la passe décisive.
Non, je disais juste que moi, ce qui m'inquiète dans ce constat qu'on fait, c'est qu'on est quand même plusieurs, et depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, à le faire, ce constat-là, mais qu'au niveau, encore une fois, des instances et des dirigeants du football français, tout va bien, puisqu'on a vendu la Ligue 1 pour 1,1 milliard d'euros, donc a priori, c'est que tout va bien. On ne sait pas où elle sera diffusée, mais ça, c'est un autre problème. Mais en attendant, le constat qu'on fait quasiment semaine après semaine, que ce soit les lundis matins en ayant vu des purges tout le week-end, ou le jeudi ou le vendredi après les matchs de compétitions européennes, il n'y a pas de leçons qui sont tirées de ça. Il y a pas de. Y a non, pas
ils, sont contents, retrouve, ils sont contents.
S'il vous plaît, on se retrouve. On se retrouve dans quelques instants. On reparlera du sondage d'ailleurs d'Auxerre, tel Groupama, au sujet du niveau du football français. Les clubs français vont-ils dans le mur? Nous parlerons de l'Olympique de Marseille. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h30 avec Cindy Colmenares, David Ayello, Diaw Sport, Bruno Constant et Sébastien Tarrago du journal L'Équipe. À tout de suite sur RTL.
RTL, on refait le match.
Ça pince.
Denis Balbir sur RTL.
On refait le match.
Jusqu'à 19h30 avec Cindy Colmenares, David Ayello de Yahoo Sport, Bruno Constant et Sébastien Tarrago du journal L'Équipe. Rapidement, Eric Martin à Montpellier, c'est un peu tendu quand même sur la pelouse.
Ah oui, la 85e minute de jeu et les Montpelliérains qui perdent totalement le fil de cette rencontre. Ils l'ont perdu depuis la 72e minute de jeu avec l'exclusion de leur défenseur central Pedro Mendes. En est suivi le but somptueux de Neymar sur coup franc, le but d'Mbappé, le but d'Icardi derrière, donc ça fait 3 buts à 1. Et les Montpelliérains qui se prennent carton jaune sur carton jaune, notamment Joris Chotard et il y a quelques secondes le latéral droit Souquet. Les Montpelliérains qui perdent le fil et les Parisiens qui ont dû obtenir du coup l'exclusion du défenseur montpelliérain pour mettre le pied sur l'accélérateur et il mène donc 3 buts à 1. Il reste 4 minutes à jouer dans le temps réglementaire.
On en profite pour signaler que pas très loin de Montpellier à Nîmes, Laurent Boissier, le directeur sportif, va quitter le club et on souhaite beaucoup de courage à Bernard Blacard, l'entraîneur de cette équipe qui a perdu 2 joueurs hier sur carton rouge avec un pénalty également discutable. On va pas revenir sur le match Nîmes-Lyon mais c'était un peu particulier. Courage à cette équipe nîmoise. On va revenir nous à notre thème actuel, les clubs français vont-ils dans le mur? Alors pour 69% des amateurs de football, Bruno Constant, c'est oui.
Bah c'est oui, c'est plutôt inquiétant. Alors je n'étais pas d'accord avec Sébastien sur l'histoire de l'OM, de Villas-Boas à Angers, parce que l'OM est un cas à part, c'est quand même un convalescent, il vient d'arriver,
après, d'ailleurs, de l'OM.
Il essaye de construire quelque chose, donc c'est normal d'essayer de se rassurer, et puis surtout c'était plutôt intelligent par rapport
grand
à Angers.
Grand club. Hein.
Non mais d'accord, mais...
Tu vois Liverpool faire ça?
Ben non, mais Manchester United, on l'a vu faire ça par exemple plusieurs fois.
On a vu
un club convalescent, ça me choque pas qu'il le fasse. Moi, ce qui me choque, c'est qu'un club comme Toulouse qui change d'entraîneur va aller chercher un Camboire, par exemple. J'imagine qu'il y aura des jeunes techniciens avec des idées nouvelles qui peuvent aider Toulouse avec du jeu et surtout s'en sortir par le jeu. En France, on veut pas s'en sortir par le jeu. On veut se sauver en bétonnant derrière, en faisant le moins de passes possible et avec, allez, sur un concours de circonstances, un corner ou un coup franc, on va réussir à marquer.
C'est un des vrais problèmes du championnat de France, Cindy Colmenares.
Oui, enfin, il y a ça.
Bétonner, défendre, absolument.
Pas forcément, parce que ça dépend vraiment du contexte. Mais pour moi, les problèmes, ils ne viendraient pas des LUA. Pour moi, au niveau européen, en tout cas, on a des équipes aussi qui viennent à peine de réussir encore l'entrée en championnat européen. C'est le cas de Lille. C'est vrai que lorsque toute la saison dure, on remarque quand même qu'ils n'ont pas l'opportunité de s'entraîner face à des grandes équipes. Donc, ils sont plus ou moins sonnés quand ils arrivent sur les terrains européens avec toute l'intensité qu'ils peuvent avoir de l'autre côté, donc des autres joueurs. Et qu'effectivement, en Ligue 1, c'est un championnat qui manque d'intensité. Même lorsqu'on voit des équipes comme PSG en train de gagner 2 buts à 0, on constate quand même qu'ils l'ont fait presque en marchant. Donc en fait, est-ce que ça aussi, ça les entraîne, ça les prépare à un niveau un peu plus élevé tel que celui de la Champions League? C'est compliqué.
En tous les cas, les amateurs de football sont inquiets. Rapidement, autour de la table, il y a mardi un rendez-vous très important pour Lyon, parce que ça serait... J'allais dire historique, peut-être pas, mais enfin, si Lyon ne passait pas cette phase de groupe, ce serait quand même très ennuyeux. Bruno Constant, 50% pensent que l'OL, dans ce sondage Odoxa, RTL Groupama, pense que l'OL va passer. 48% des Français estiment que non. Vous êtes dans Dans quel, de quel côté vous pensez que
pas,
Lyon va...
Je ne saurais pas prédire l'avenir. Ce qu'a montré...
Non, mais si on vous demande votre avis comme ça,
non, mais ce que...
c'est le cas là.
Ce qu'a montré Lyon depuis le début, c'est que ce n'est pas très rassurant quand même.
D'accord.
Sur un match, ils sont capables de le faire. Ils l'ont fait la saison passée face à Manchester City. À eux de le faire face à Leipzig.
Mais... Sébastien Tarrago.
Je pense qu'ils ne sont plus capables de réaliser les la performance qu'ils avaient réalisée à Manchester City l'année dernière. Mmh. Après, est-ce qu'ils sont capables de gagner ce match à domicile? Oui. Il faut se rappeler que Lyon est dans une situation limite miraculeuse eu égard au match aller en Allemagne où les Allemands avaient eu un nombre d'occasions insensées et Lyon aurait dû perdre ce match très largement. Voilà, il faut sauver les meubles, ils en sont capables quand même, mais forcément qu'il y a de l'inquiétude quand on les voit jouer.
David Ayello, il y a au sport. Après, évidemment, Cindy, vous donnerez votre avis.
Oui, effectivement, on peut qu'être inquiet pour cette OL, tous les défauts qu'on leur trouve.
Est-ce qu'ils vont battre les psyches? Est-ce qu'ils vont passer cette phase de poule?
Moi, j'ai du mal à y croire. Je les trouve trop fébriles.
Cindy Colmenares.
Oui, mais difficilement. Il faut savoir aussi que Leipzig n'a pas perdu des matchs depuis, j'en sais plus combien, j'étais en train de regarder aussi à quand ça datait les derniers. Ils ont que sur un nul et plusieurs victoires. Donc, du coup, c'est une équipe aussi qui arrive, qui en a pas mal d'espoir, donc certains Français, donc qui a une bonne intensité et sur une bonne, en tout cas, période. Tandis que l'OL va plus compter sur certaines individualités et aussi sur certaines failles qui se payent cher au niveau des la Champions League, mais je pense que c'est faisable parce que c'est des joueurs aussi de l'OL, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais qui se transforment complètement et se transcendent en Champions League. C'est transcendent complètement.
Vous pensez vraiment que c'est encore le cas? Moi, ils ont ça dans leur ADN,
mais de moins en moins. Voilà. Mais je pense que ça y est encore.
On espère pour eux.
Ils sont sur une bonne dynamique.
Allez, Montpellier, Paris Saint-Germain, c'est quasiment la fin du temps réglementaire. Éric Martin, le Paris Saint-Germain qui va enchaîner une victoire, c'était pourtant mal engagé.
Ah, c'était pourtant très très mal engagé pour les Parisiens. Il reste 15 secondes à jouer, ils mènent 3-1, mais ils ont été menés depuis la 41e minute de jeu, 1-0 sur un but contre son camp de Paredes. Il a fallu, je vous le disais tout à l'heure, l'exclusion de Pedro Mendes, le défenseur central montpelliérain, pour que les Parisiens réagissent. But de Neymar sur coup franc, but d'Mbappé et ensuite Icardi qui est venu certainement sceller cette victoire ici à la Mosson. Mais que ce fut compliqué, le PSG très inquiétant dans le jeu qui mène 3-1 et on est entré dans le temps additionnel depuis 10 secondes.
Voilà, on se rappelle Éric Martin juste pour le coup de sifflet final, parce que ça n'évoluera pas. Évidemment, tout peut se passer, mais le Paris Saint-Germain va certainement emporter cette rencontre. On se retrouve dans quelques instants avec Cindy Colmenares, David Ayello d'Yahoo Sport, Bruno Constant et Sébastien Tarrago de l'équipe. Nous poserons la question, l'OM nouveau est arrivé, mais tiendra-t-il la cadence? À tout de suite sur RTL.
Denis Balbir sur RTL, on refait le match. On refait le match sur RTL, Denis Balbir.
Et nous allons à Montpellier parce qu'il y a un coup franc intéressant pour les Montpellier, Eric Martin.
Un coup franc indirect dans la surface de réparation sur une bourde de Keylor Navas qui a pris ballon de la main sur une passe de son défenseur. Donc coup franc que va tirer Florent Mollet. On est dans la surface de réparation. Il va certainement le décaler ce ballon sur Andy Delors qui va envoyer une petite praline pour essayer de réduire la marque. On rappelle que les Parisiens mènent toujours 3-1. La frappe d'Andy Delors qui a été repoussée par Thiago Silva qui c'est un petit peu jeté à l'abordage, les Montpelliérains qui restent à l'attaque avec le centre de Congrès, la tête montpelliéraine, et ça va être dégagé par les défenseurs parisiens. Toujours 3-1, il reste 20 secondes dans cette partie.
Merci Eric Martin. On pense que le score est acquis. On va parler de l'OM. L'OM nouveau est arrivé. Tiendra-t-il la cadence? L'Olympique de Marseille qui compte 31 points, à 8 points du Paris Saint-Germain qui a un match en retard à Monaco. La capacité de Villas-Boas à faire de Marseille à refaire de Marseille une équipe avec beaucoup de joueurs qui le remercient. Amavi, Payet, on voit une équipe qui a de nouveau le sourire. Bruno Constant.
Oui, c'est intéressant, ça ressemble un peu à un médecin qui vient soigner un malade. Il chuchote à l'oreille des joueurs, il les rassure. Quand quelqu'un est pas bon, il lui dit qu'il est pas bon et il dit qu'il va pas jouer le prochain match mais qu'il a toujours confiance en lui. C'était le cas d'Amavi. Il a un discours qui est clair, qui est limpide, une communication qui est transparente aussi bien avec ses joueurs qu'avec la presse. Il dit des choses qui ne plaisent pas aussi, mais il les dit. Et pour l'instant, dans la communication, en tout cas, il est très bon. Après, moi, je trouve que ça reste malgré tout sur un fil et que ça reste convalescent.
Ça reste fragile.
Mais, dès qu'il manque un ou deux leaders majeurs, ça risque de poser problème.
On va rappeler que Marseille reçoit Bordeaux, entraîné également par un autre, un grand joueur portugais, Paulo Sousa, ancien grand joueur. Sébastien Tarrago, l'équipe.
En dehors de son manque d'ambition à Angers, il est très bon. remarquable et il a un avantage.
Ça vous a marqué l'Angers Marseille?
Oh, mais quand t'es l'Olympique de Marseille, tu vas pas bétonner Angers. Mais bon,
si tu gagnes,
non, tu vas pas bétonner Angers. Mais c'est que, ce n'est que mon point de vue. Ouais. Mais en revanche, il est très bon, cohérent. Quand il y a eu la tempête après la défaite au Parc des Princes, lui, il est resté solide. Sur les appuis, je l'ai trouvé remarquable et l'avantage que l'Olympique de Marseille a, c'est quand même aucune Coupe d'Europe cette saison. Ouais. Donc,
oui, sur parce que l'effectif est assez court en quantité
oui,
et en qualité.
Et parfois limité s'il y a une ou deux absences. Ouais. Donc, mais eu égard à la concurrence, moi je suis assez confiant pour l'Olympique de Marseille.
David Daiello, Yahoo Sport.
Justement, c'est le point sur lequel je voulais insister. C'est vrai que compte tenu de l'irrégularité des concurrents, quand on voit ce que fait Monaco, quand on voit ce que fait Lyon, notamment, je me dis que c'est quand même... Et quand on ajoute à ça, effectivement, l'absence de compétition européenne pour l'OM, je me dis que c'est quand même une belle année pour bien se relancer. Une année qui devait être une année de transition, mais voilà, qui pourrait finalement s'avérer être une année en fin de qualification en Ligue des Champions.
Cindy Colmenares.
Oui, alors, moi, je pense que si on doit parler des meilleurs recrues de l'OM, il y a déjà Villas-Boas par rapport à sa communication, mais également la tactique. Moi, j'ai une lecture de jeu différente entre l'OM et l'ESCO d'Angers. Moi, je considère que l'ESCO d'Angers est une équipe qui est, au contraire, peu habitué à avoir les ballons et que la tactique qui consiste de Villas-Boas à leur laisser assez les ballons, bah, du coup c'est ce qui a fait que l'OM a pu montrer ses qualités, d'ailleurs son réalisme au niveau de l'attaque, mais également déstabiliser cette équipe ESCO d'Angers qui n'a pas l'habitude que
vous
l'on mette dans cette situation-là.
Vous êtes de beaux épiciers, mais vous êtes des épiciers.
Et d'ailleurs,
c'est quoi
au niveau
des... pour
vous. Tout pour la défense.
Okay. Et au niveau de Payet, moi je considère qu'il a retrouvé vraiment sa forme, il est très bien à gauche. Et Rongier. Comment ne pas parler de Rongier? Il est actuellement un joueur excellent à la récupération, à donner vraiment de l'élan à cette équipe, à réussir à faire aussi les transitions offensives. Donc moi, je pense que par rapport à tout ça, l'OM va continuer dans sa bonne
transition. C'est quand même quelqu'un qui a dit en arrivant, on va jouer en 4-3-3 et je vais me tenir à mon 4-3-3. 4-3-3. On lui a expliqué qu'il n'y avait pas de sentinelle. Ils ont vendu Luis Gustavo, il y avait Strootman qui avance pas, il a mis Strootman devant la défense sentinelle, ça marche plutôt bien. C'est pas fantastique, mais ça marche. On a expliqué que Sanson et Rongier ne pouvaient pas jouer ensemble. Il se trouve que les deux peuvent jouer ensemble.
Génial même.
Et qui sont même très
excellents.
Bons. Oui, oui. On a expliqué que Payet ne pouvait pas jouer à gauche, qu'il ne défendait pas assez, etc. Payet joue à gauche, il est excellent. Pour l'instant, tous ces choix sont validés.
C'est le Barça de 2011.
Non, mais... je dis pas que c'est le Barça. Non, je dis pas que c'est le Barça.
On a le droit de pas être d'accord.
Ah bah oui, bien sûr, c'est l'idée. Mais c'est pour ça que c'est l'idée. Tu as le droit de pas être d'accord. J'ai le droit de pas être d'accord.
Voilà. Mais on a peut-être tous les deux.
Entre le Barça et Marseille.
Non, mais moi je revois le Barça de 2011. Ça me fait plaisir.
Non, mais il y a un juste milieu. D'un effectif qui est limité.
Vous avez raison. Je vois l'Olympique Lyonnais des années 2000 aussi. Enfin, on est dans quelque chose de vraiment emballant. Et on s'amuse, on prend du plaisir à les voir jouer. Ça, c'est bien.
Il est de mauvais poil, Sébastien.
Pas du tout. Non, au contraire.
Je suis là.
Je suis de très bonne humeur et j'adore voir Dimitri Payet courir de temps en temps.
Alors on va remercier Eric Martin qui était à Montpellier, Paris Saint-Germain, Damien Béchiot qui réalisait l'émission avec Geoffrey Calderon et Christian Olivier est avec nous pour le multiplex.
Car le football, c'est loin d'être terminé bien évidemment.
Évidemment.
Quel plaisir, une nouvelle fois, je le répète tous les samedis, mais c'est une réalité de vous retrouver, d'abord de vous saluer et puis vous proposer le programme du multiplex, le Parisien.
On va rappeler le Téléthon aussi, 36-37 pour ce week-end du Téléthon, c'est important.
38-37
36-37.
Vous le faites bien, Denis. Dites-moi, Christian Gourcuff, on ne l'entend pas très souvent, finalement, en interview, en entretien, comment dire, prolongé. Eh bien, on vous le proposera dans son 5 à 7. C'est le 5 à 7, hein, 5 à 7 minutes d'information, d'interview, de coulisses, etc. Pour vous donner l'eau à la bouche, il nous parlera de mondialisation, d'écologie, de football d'hier, d'aujourd'hui et de demain, de Kita, de son contrat, et de Johan également, Johan Gourcuff. Qui a l'air de s'intéresser davantage au tennis désormais qu'au football. Et oui.
Pas mal,
voilà.
Ça.
Ouais. Ce sera à 22h. Le multiplex, le Parisien aujourd'hui en France, 19h30, 23h avec Philippe Sanfourche, Giovanni Castaldi, le jeune Quentin pour les réseaux sociaux, Damien la réalisation et vous tous qui êtes derrière votre poste, bien
on
évidemment.
On vous souhaite une très belle soirée, Christian.
Avec 4 matchs, Rennes-Angers, Nice-Metz, Monaco-Amiens, Strasbourg-Toulouse. Bonne soirée à vous également.
Bonne soirée.
Passez une bonne soirée avec RTL.